Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun.
Chers auditeurs et auditrices de Spoutnik Afrique, bonjour. Ici Quentin Brachet, journaliste et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons sur les objectifs de l'ONU de mettre fin à la famine d'ici 2030. Nous évoquerons le rôle que joue et pourra jouer la Russie pour y parvenir et les défis à relever en Afrique. Pour répondre à ces questions, j'aurai l'honneur de recevoir Oleg Kobiakov, le directeur du bureau de liaison de la FAO en Russie. A tout de suite. Le monde est entré ces dernières années dans une nouvelle période de crise alimentaire. Le continent le plus touché par ce fléau en termes de prévalence reste l'Afrique, avec une personne sur cinq concernée. Cette situation perdure du fait d'une production insuffisante, des prix des denrées, des difficultés rencontrées par l'agriculture localement, des conditions météorologiques, mais aussi des guerres qui persistent encore. Mondialement, la réponse s'organise autour de plusieurs agences des Nations Unies, comme le Programme Alimentaire Mondial, ainsi que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Pour discuter des enjeux de l'alimentation à travers le monde, je reçois Oleg Kobiakov, le directeur du bureau de liaison de la FAO en Russie. Monsieur Kobiakov, bonjour.
Bonjour Quentin, bonjour chers spectateurs en toute en Afrique.
Bienvenue dans les studios de Spoutnik Afrique, on est très heureux de vous recevoir. En 2015, l'ONU a fixé l'objectif d'éliminer la famine et d'assurer la sécurité alimentaire à l'horizon 2030. L'humanité est-elle proche de cet objectif ou au contraire en est-elle éloignée?
Alors c'est un fait triste que nous sommes très éloignés de ce but. Selon les estimations de l'FAO, en 2022, près de 735 millions de personnes dans le monde entier souffriront de faim chronique. Et c'est 122 millions de plus qu'avant le début de la pandémie de Covid. Aujourd'hui, nous sommes donc encore loin d'objectif d'élimination complète de la faim d'ici 2030. Et l'aggravation de la situation en matière de sécurité alimentaire sur la planète est liée à la fois aux conséquences au premier de l'épidémie de Covid, au deuxième aux conflits armés, au troisième aux crises financières et énergétiques, ainsi que les conséquences négatives de changement climatique comme sécheresse qui a frappé plusieurs des principaux pays producteurs des produits alimentaires cette saison.
Donc on s'éloigne de cet objectif plutôt que de s'en rapprocher.
Oui, tout à fait. Si nous comptons que nous reste moins que 6 ans jusqu'au 2030 et le nombre de personnes affamées dans le monde qui dépasse 700 millions de personnes, il faut réduire ce nombre par 70 millions par an. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas achever pour atteindre ce but.
La Russie a envoyé gratuitement des céréales et des engrais à plusieurs pays africains, honorant ainsi une promesse faite lors du sommet Russie-Afrique. Quel rôle ces livraisons jouent-elles dans la résolution du problème de la famine sur le continent africain ?
Enfin, vraiment, lors du sommet Russie-Afrique de l'été dernier, le territoire russe a annoncé l'allocation de 200 000 tonnes de blé pour l'aide aux pays africains. Il y a quelques semaines que cette opération a été finalisée avec succès. Donc, le blé promis est arrivé dans des pays tels que le Burkina Faso, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine, l'Érythrée et le Zimbabwe. Et cette aide est vraiment une contribution essentielle à la réduction de la faim aiguë dans ces pays. Ainsi, en Somalie, l'approvisionnement a couvert 23% de la demande annuelle totale de blé. Donc, déficit était 215 000 tonnes. Pour Burkina Faso, ce chiffre arrive à 9% et 6% pour Mali. Et particulièrement important à noter que cette aide soit gratuite pour les bénéficiaires.
Et ça, c'est pour les céréales. Et concernant les engrais aussi
Et les engrais aussi sont en train d'être délivrés dans certains pays africains. Et c'est une opération en cours. Et vraiment, les engrais sont parmi les plus importants précurseurs pour la production pour la saison prochaine.
Sur le long terme, est-ce qu'il vaut mieux donner des engrais pour que les Africains développent leur propre agriculture locale ou est-ce que les céréales restent toujours la meilleure solution?
Bien sûr, c'est un dilemme notarié. en choisissant entre la pêche ou la canne à pêcher. Soit vous donnez quelques poissons, la personne à sa pommille, pour durer quelques jours en plus, ou vous donnez la canne à pêche pour leur faire assister, procurer son propre alimentation. Il faut, à mon avis, il faut combiner les deux, et ça dépend de la situation actuelle. Au premier, d'aider des pays, les personnes frappées le plus, de survivre cette situation, et après, continuer avec une aide productive, comme les précurseurs, donc des engrais, des carburants, des moyens à la protection des plantes, herbicides, et comme ça.
Le ministre zimbabwéen de l'Agriculture a récemment annoncé que son pays était prêt à collaborer avec la Russie pour créer un hub d'approvisionnement en céréales et en engrais pour de nombreux pays africains, du Congo et de l'Angola à la Namibie et l'Afrique du Sud. Quelle est l'importance d'une telle initiative, d'un hub d'approvisionnement pour cette région ?
En général, je voudrais dire que l'FAO est toujours favorable à la création de partenariats mutuellement bénéfiques dans le domaine agroalimentaire, car cela crée des synergies et crée une plateforme pour harmoniser des positions et des intérêts. Et bien sûr, les centres, comme le centre d'approvisionnement des céréales et en engrais, une fois réalisés, proposés, pourraient bien servir cet objectif. Mais pour dire la vérité, je ne suis pas au courant de cette initiative et il y a certains défis qu'il faut trouver les réponses. Donc, un, le plus important est que Zimbabwe n'a pas l'accès direct sur les portes maritimes.
Et donc, quelle serait la solution ? C'est donner un accès au Zimbabwe à des ports
Au niveau logistique, il y a plusieurs solutions. Soit vous positionnez le centre plus proche aux portes, ou plus proche au centre de distribution, ou au milieu. Il y a des différentes solutions possibles. Et ce qui est important, c'est l'initiative de bonne volonté des pays d'accommoder ce genre de structure.
L'Afrique australe a connu une sécheresse qui a entraîné d'importantes pertes de récoltes. Les experts attribuent cette situation aux effets du phénomène El Niño. Quelles sont les prévisions de la FAO concernant la sécurité alimentaire dans cette région ? Et la Russie peut-elle aider les pays de l'Afrique australe, notamment à long terme, en partageant son expérience en matière de gestion de l'eau et de prévention des nouvelles sécheresses.
Alors pour l'Afrique, vraiment, les changements climatiques ont des effets dévastateurs sur la pauvreté, les pénuries alimentaires et le niveau de vie. Et pour réduire la fréquence et l'intensité des épisodes de sécheresse, il est essentiel de mettre fin aux activités humaines responsables de la dégradation des sols et de la destruction de la biodiversité, donc qui sont les principales causes de la désertification. De l'autre partie, l'Afrique même possède des terres fertiles, des zones d'agricole durable, un large éventail de cultures qui poussent d'origine et peuvent parfois produire 2 ou 3 récoltes par an. Et qui est plus importante, les ressources halieutiques abondantes. Et selon FAO, l'Afrique a toutes les chances d'être autosuffisante en aliments et devenir la nourrice d'autres régions, bien sûr.
Donc finalement, la sécurité alimentaire est intrinsèquement liée justement à la lutte contre les changements climatiques, à la défense de l'environnement.
Ce sont certaines directrices dans lesquelles nous pouvons poursuivre le développement de l'agriculture moderne en Afrique. C'est bien sûr combattre les conséquences négatives du changement climatique, introduire les nouveaux variétés, des plantes et des animaux agricoles. C'est utiliser l'engrais moderne, combattre désertification et dégradation des sols. Et bien sûr, c'est nécessaire d'être financé. Le financement est très important pour les pays africains de établir son propre voie de développement agricole et avancer.
Comment la Russie pourrait-elle encore contribuer pour garantir la sécurité alimentaire en Afrique au-delà des livraisons d'engrais, de céréales
Alors, il faut développer les chances de bien alimentaire entre l'Afrique et la Russie. Des aliments, des produits de la pêche, il y a des grandes réserves en ce domaine. Au deuxième, il était de très bonne tradition que les étudiants des pays d'Afrique et pays francophones inclus, ils font leurs études en l'URSS et après en Russie, il y a certaines grandes universités agricoles, par exemple l'université Patrice Lumumba à Moscou, et l'université Timiraziev qui accepte maintenant de grand nombre d'étudiants de pays d'Afrique. Et à mon avis, c'est un voie très perspectif et il faut augmenter le nombre des personnes qui viennent d'étudier en Russie. Aussi, il y a de nombreuses échanges avec le know-how de introduire les innovations et IT produites par les entreprises russes, par les instituts de recherche russes en Afrique. Et ce domaine, à mon avis, est la plus perspective de tout.
Vous savez combien il y a à peu près d'étudiants africains en Russie, justement dans le domaine agricole?
Je ne peux pas dire le nombre, mais ça augmente chaque jour. Même nous avons eu un interne, un stagiaire de Burundi à notre bureau FAO Moscou. Il a écrit un très bon rapport sur le marché 2000 en Afrique, parce que l'été dernier était l'année internationale 2000. Et c'est un céréal très connu en Afrique et même en Russie.
Si auparavant les famines étaient plutôt provoquées par les prix des aliments, comme avec la crise de 2008, aujourd'hui il semblerait que les conflits soient au cœur des nouvelles crises alimentaires. Quelle solution peut-on trouver à ces nouveaux enjeux?
Alors, nous avons déjà parlé que les causes des famines sont multiples. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est l'effet durant du Covid. Et son impact dévastateur sur les chaînes logistiques, la production, de la consommation et le transport, la transformation des aliments ont continué à être affectés. Alors, et donc, le deuxième de l'importance, ce sont des conflits et des guerres différentes et les phénomènes naturels, les sécheresses, inondations, l'invasion des pestes, donc continuent de croître. Comme nous pouvons rappeler, l'invasion des criquets en Afrique, c'est quelques ans qui a touché, a frappé six pays africains de zone Sahel et Russie a donné 10 millions de dollars pour l'opération FAO dans ces pays de lutter contre le criquet. Et bien sûr, d'arriver à fin de fin mondiale et pour créer et établir une sécurité alimentaire pour tous, il faut mettre fin au conflit, il faut procéder ensemble en développement de l'agriculture en assurant sécurité sociale des gens et des gens dans le secteur agroalimentaire et utiliser tous les know-how comme ordinateur, comme communication moderne, comme médecine moderne au profit de l'humanité.
Pourtant, justement, en Afrique, on disait qu'il y avait de moins en moins de conflits et finalement, ça reste quand même le principal problème pour lutter contre la faim dans le monde.
Outre le conflit ukrainien, il y a de nombreux conflits de longue date. On continue de voir les répercussions négatif sur la sécurité alimentaire et même en Afrique, c'est toujours Somalie, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, République démocratique du Congo, le Nigeria et plusieurs pays de la zone Sahel. Donc il faut impérativement trouver une solution pacifique, négocier et mettre fin à ce conflit. Donc l'agriculture est un domaine très très pacifique. Et il faut avoir la paix, la calme pour y travailler calmement et être productif.
Les sanctions contre la Russie ont causé des problèmes d'approvisionnement en céréales, notamment pour l'Afrique. En même temps, tout le monde semble s'accorder sur le fait que les sanctions ne peuvent pas s'appliquer à l'alimentation. Quelle est la position de la FAO sur cette question et peut-on espérer une solution rapide à ce problème?
Ouais, écoutez, notre organisation, FAO, est une organisation fermement fondée sur les principes de marché libre. Les principes qui promeut le commerce équitable, transparent, ainsi que l'égalité d'accès des producteurs et consommateurs aux matières premières et aux produits finis. Donc nous sommes contre les sanctions, nous sommes contre les mesures unilatérales et nous pensons que l'égalité en approche à les marchés va promouvoir la situation alimentaire dans le monde et le développement durable du secteur alimentaire en tout pays.
Environ 150 000 tonnes d'engrais russes restent bloquées sur le territoire de l'Union européenne, principalement en Lettonie et en Estonie. Comment interpréter cette situation alors que les sanctions imposées par l'UE ne s'appliquent pas aux produits agricoles? Est-ce que l'ONU prend des mesures pour que ces engrais parviennent aux pays qui en ont le plus besoin, notamment les pays africains?
Alors, l'ONU, le grand ONU, donc secrétariat de l'ONU à New York, vraiment prend des mesures et sous-secrétaire général, M. Martin Griffiths de l'ONU est en contact avec les partis. Et j'espère qu'on peut trouver la solution technique et pratique pour délivrer cet engrais qui sont vraiment, vraiment très, très demandés en pays africain, à leurs consommateurs.
Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on peut espérer...
Les FAO n'étaient pas chargés avec solution de ce problème.
Mais est-ce qu'on peut espérer justement que les engrais puissent être débloqués prochainement
Je crois que oui. Je crois que oui, mais le volume n'est pas aussi important. Et donc, les nouveaux parties de engrais qui envoyées par les routes maritimes peuvent sous-couvrir cette demande en engrais en pays africain pour la prochaine saison de plantation. Il y en a trois saisons de plantation en Afrique, donc il faut engraver trois fois par an.
La CEDEAO a imposé des sanctions au Niger en 2023, après la prise de pouvoir par les militaires. Les frontières avec le Bénin et le Nigeria ont été fermées et les Nigériens ont été confrontés à des pénuries de céréales et de denrées alimentaires importées. Pourquoi les sanctions touchent-elles constamment les segments les plus vulnérables de la population et pourquoi empêchent-elles la libre circulation des biens vitaux?
En principe, en pratique, les sanctions toujours touchent les secteurs de la population qui n'ont pas été ciblés par leur auteur. Hein. Par conséquent, les recommandations de politique générale de l'FAO pour faire face à cette situation appellent à examiner les politiques des sanctions évoluées si elles doivent être maintenues.
Quand on parle de la famine, le cas le plus pressant qui inonde l'actualité internationale est plutôt celui de la bande de Gaza en ce moment. L'ONU a publié un rapport récemment alertant sur le fait que 2,2 millions de Palestiniens dans l'enclave allaient être plongés dans la plus grave crise alimentaire au monde. Que peuvent faire l'ONU et la communauté internationale dans une telle situation?
Je suis en accord que la situation actuelle en Gaza au niveau alimentaire est vraiment en crise de dimension mondiale. Peut-être le plus grand connu par le monde. Et selon les FAO, 42% de terres arables à Gaza ont été endommagées. Hein, et plus que 70% de la population, mais c'est plus que 210 000 personnes, seront confrontées à une situation catastrophique et que le 30% restant seront confrontés à une situation d'urgence. Et le système de ONU, les agences humanitaires et le programme mondial alimentaire font tous les efforts d'avoir un accès à cette population le plus touchée. Et FAO attend la situation qu'il peut aussi accéder les producteurs agricoles de leur assister à sauver leurs moyens de vie, les bovines, les volailles, et donc et assurer le fourrage pour les vaches, ce que les enfants auront du lait. Hein. Et c'est 1 200 tonnes d'orge maintenant sont en attente d'être délivrées à Gaza selon pour les opérations FAO en Gaza.
Combien de tonnes
1500, c'est pour fourrage, pour les vaches laitières.
D'accord. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'ONU, il y a plusieurs niveaux d'urgence de la faim, et il me semble qu'à Gaza, le niveau est arrivé au niveau maximum.
Oui, il y a 5 niveaux. Il y a 5 niveaux, et donc maintenant 70% au niveau 4,5, hein, plus ou moins. Parce que le niveau 5 est une mort imminente dans quelques jours, hein. Ces femmes, non seulement les femmes chroniques, mais les femmes aggravées à des situations médicinales, hein, dans lesquelles les personnes, si on ne donne pas l'alimentation normale, l'équilibre, ne peuvent survivre. C'est vraiment une situation très grave et nous espérons que les parties de ce conflit seront d'accord dans quelques jours, hein, pour assurer un accès humanitaire aux populations les plus touchées.
Parce que pour l'instant, l'enclave reste complètement bloquée par Israël. Est-ce qu'il y a des perspectives de déblocage, justement?
Il faut demander les gens politiques du secteur ONU, celles qui sont en négociation avec les partis, les agences humanitaires, mais nous restons optimistes. Et il y a toujours un espoir qu'on faut, on peut et on doit trouver une solution pour aider les populations affamées.
Et de manière générale, au niveau de cette crise de la bande de Gaza, il y a aussi des problèmes en mer Rouge, au Moyen-Orient, avec les Houthis, etc. Comment est-ce que les marchés alimentaires sont affectés par la situation en mer Rouge ?
Bien sûr, les marchés alimentaires sont affectés par cette situation dans une manière importante. Et effets sur le commerce mondial des produits alimentaires aussi sont importants. Parce que les coûts des frais de navire en printemps cette route a presque quadruplé. Et les frais chutaient, le volume des marchandises transportées chutait de 30%. Et comme l'économiste en chef de l'FA, M. Torero, s'exprimait récemment au groupe expert au Forum mondial sur l'alimentation et l'agriculture à Berlin, il a déclaré que les risques auxquels nous sommes confrontés dans la mer Rouge, les risques auxquels nous sommes confrontés dans la mer Noire, et les risques auxquels nous pourrons être confrontés en raison de la baisse du niveau d'eau dans le canal de Panama, qui est une artère clé pour nous. Nous transportons des marchandises dans le monde entier. Donc, ce sont les trois groupes de risques liés à la transportation maritime de produits alimentaires. Et bien sûr, nous avons témoigné que les plus grands transporteurs maritimes du monde ont refusé de livrer les marchandises à travers de la mer Rouge. Et l'autre variante, l'option pour surpasser le continent africain par Cap de Bonne Espérance. Cette route est plus longue de 8000 km et ça donne de 10 à 14 jours en plus. Et le coût d'achat de carburant, bien sûr, augmente les coûts en moyenne de 15%. Donc, ce sont des conséquences et il y a une augmentation des prix des produits en certains marchés régionaux. Et je voudrais souligner que pour nous, pour FAO, la liberté de navigation, la liberté des marchés, la liberté d'accès est un élément essentiel de bon fonctionnement de marché agroalimentaire et des systèmes agroalimentaires en général.
Vous avez parlé donc de la mer Rouge, la mer Noire et aussi du canal de Panama. C'est un sujet qui est beaucoup moins connu en fait, le canal de Panama. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Bien sûr, c'est moins connu, mais grâce au phénomène El Niño, le niveau de l'eau dans le canal baisse. Et ça va une influence directe sur le nombre des bâtiments qui peuvent passer le canal. Maintenant, espérons que ce sont des changements épisodiques, ça change pendant l'année, mais le fond d'hiver et le printemps dans le cercle austral et aussi le temps de saison sèche. Donc, mais c'est vraiment le problème mineur, si vous voulez comparer avec situation en mer Rouge et mer Noire.
Plus généralement, avec les sanctions contre la Russie et le début d'un rééquilibrage du monde en faveur des émergents, nous assistons à une fragmentation des marchés des denrées. La remise en cause de la centralisation des marchés autour de l'Occident peut-elle rendre service aux pays les plus démunis, par exemple avec le projet de bourse des céréales des BRICS ?
Vraiment, la Russie reste un acteur majeur dans le domaine d'agriculture, fournissant, selon ses données, plus d'un quart du marché mondial des céréales. Et l'année dernière, par exemple, le pays a exporté des produits agricoles d'une valeur de moins de 43 milliards de dollars et est prévu d'exporter jusqu'à 65 millions de tonnes de céréales pour cette année. Et la bourse de céréales des pays BRICS réunirait les plus grands acheteurs et exportateurs de céréales du monde. Et à mon avis, ça va produire un effet stabilisant sur les marchés de blé. Parce que d'aujourd'hui, c'est seulement la bourse de Chicago qui, en fait, qui dictait les prix courants et les prix futurs pour le blé au monde entier.
Mmh. Un effet stabilisant, c'est-à-dire vers une réduction du prix ou stabilisant à quel niveau ?
Quand j'ai dit stabilisation, j'ai pensé aux stabilisations, aux meilleures prédictabilités du marché prochain, des prix prochains, pour la saison prochaine. Et bien sûr, la croissance, l'établissement et croissance de deuxième centre mondial de marché céréales va diminuer des prix en long run, dans la perspective plus éloignée.
Donc une diminution des prix, c'est forcément favorable pour la sécurité alimentaire.
Oui, bien sûr. Mais chaque année, les prix augmentent. C'est l'inflation, c'est santé partout le monde. Mais d'autres parties aussi, des revenus augmentent. Hein? Et on ne peut pas garantir le même prix en 10 ans, en 20 ans. Le défi ici est d'assurer que l'augmentation des prix ne dépasse pas l'augmentation des revenus.
Quel est votre point de vue sur le potentiel agro-industriel des BRICS élargis et comment la FAO interagit-elle avec le groupe ?
Alors, je voudrais dire que FAO est un enthousiaste concernant les relations du BRICS et le fait que les deux derniers directeurs généraux de l'FAO étaient de provenance de pays BRICS. Donc, Monsieur Docteur Da Silva de Brésil et notre directeur général actuel, Docteur Tsu, de la Chine. Et c'est un signe que la BRICS aussi a influence sur l'organisation mondiale de l'agriculture, vraiment. Et nous allons participer, nous FAO, en réunion de BRICS au niveau d'agriculture. Il y a une réunion des ministres, il y a un groupe de travail des experts au niveau alimentaire. Et bien sûr que la Russie est la présidente actuelle pour cette réunion pour cette année. Nous avons les grandes espérances pour la coopération plus étroite avec la Russie.
Et concernant le potentiel agro-industriel des BRICS, c'est-à-dire que les BRICS sont de plus en plus représentés, mais en même temps, leur production aussi augmente par rapport aux pays occidentaux, par exemple.
Tout à fait. Et si vous considérez que cette organisation est agrandie par 5 nouveaux membres à partir de cette année, et c'est 9 maintenant, oui. Alors, ouais, 5 plus 5, c'est 10. C'est déjà 10. Et compter des membres, de nouveaux membres de l'Afrique, c'est l'Égypte et l'Éthiopie. Donc, les pays qui composent BRICS maintenant sont les plus grands exportateurs et les plus grands importateurs au même niveau. Donc, c'est la plupart, c'est la majorité de la population mondiale. Et tous les pays de BRICS ont le niveau de croissance élevé, si vous comparez avec l'ancien monde. Et donc, les perspectives pour BRICS sont très, très favorables. Et moi, j'espère, et j'ai vu des signes déjà que BRICS, les pays des BRICS, vont transformer dans la force motrice décisive du développement agricole mondial dans quelques années.
C'était Oleg Kobiakov, le directeur du bureau de liaison de la FAO en Russie. Avec lui, nous avons pu dresser un premier bilan de la lutte des Nations Unies pour atteindre la sécurité alimentaire dans le monde. Ainsi s'achève cette édition de Marché en main de Spoutnik Afrique. Nous nous retrouverons prochainement pour s'entretenir avec d'autres experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute.